Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une, ce nouveau féminicide qui met en lumière la vulnérabilité des femmes menacées face à la détermination et à la vengeance. À Épinay-sur-Seine, une mère de famille a été poignardée par son ex-conjoint, condamné cet été pour des violences conjugales. Il venait tout juste de sortir de prison. Éric Zemmour quitte Marseille sur un doigt d'honneur. La photo va sans doute beaucoup tourner et fait déjà parler. Illustration d'un passage très compliqué pour le polémiste, toujours pas candidat dans la deuxième ville de France. En Guadeloupe comme en Martinique, des policiers ont de nouveau été les cibles de tirs à balles réelles. Cette nuit, il n'y a pas eu de blessés. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, propose, et c'est une surprise, d'ouvrir le débat sur davantage d'autonomie pour la Guadeloupe. La droite et le RN dénoncent un renoncement. Pour l'ancien ministre et député de Guadeloupe, Victorin Lurel, ce n'est pas la priorité, vous l'entendrez. Dans l'actualité de ce samedi également, le variant Omicron détecté en Allemagne après la Belgique. Aux Pays-Bas, 61 passagers en provenance de deux vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs. Ils sont en quarantaine en attendant de savoir s'il s'agit du nouveau variant. De nombreux touristes, en tout cas, sont bloqués en Afrique du Sud, notamment des Français, témoignages à venir. En France, 3 millions de rendez-vous ont été pris depuis jeudi. La campagne est ouverte depuis ce matin pour la troisième dose à tous les adultes. Nous irons dans un centre de vaccination de la Drôme. Le port du masque est de nouveau obligatoire à Paris lors des rassemblements sur la voie publique et notamment sur les marchés. Au menu de ce journal également, une mèche de cheveux de Johnny aux enchères chez Drouot. Le football avec la 15e journée de Ligue 1 depuis 17h. Lille affronte Nantes au stade Pierre-Mauroy. On en est où, Samuel Duhamel?
Eh bien, c'est toujours la mi-temps. Un partout entre les deux équipes. Yilmaz a ouvert le score à la 9e minute pour le LOSC. Égalisation de Ludovic Blas à la 24e minute pour Nantes.
Et on fera un nouveau point dans 20 minutes. Ce soir à 21h, ce sera Nice-Metz que vous pourrez suivre sur RTL dans RTL Foot. Le quintet de Vincennes, 15, 8, 13, 14 et 5. Votre rendez-vous du samedi, mon métier, ma passion, ce sera dans 20 minutes. Ce soir chez un artisan bottier. Nous irons dans la neige aussi, dans la plaine des Vosges, toute blanche depuis ce matin. Et forcément, ça déblaye. C'est d'ailleurs la première offensive hivernale. Bonsoir Valérie Quintin, 11 départements en vigilance orange, neige verglas.
Bonsoir Vincent, oui, ça va commencer ce soir pour le Lot, la Creuse et le Puy-de-Dôme où déjà les chutes de neige vont intervenir dès 300 mètres d'altitude, mais seulement demain matin pour l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, l'Ain, les Savoies et l'Isère. On attend donc des chutes de neige dans les prochaines 24 heures surtout, et c'est vraisemblablement ce cumul de neige qui va poser problème puisqu'elle interviendra à partir de 300 mètres sur tous ces massifs, et donc on aura un très gros cumul d'ici lundi matin. De toute façon, demain l'instabilité va persister sur une bonne partie est du pays, donc, mais aussi dans le massif central, dans les Pyrénées, avec des pluies locales et donc de la neige à basse altitude. Pour les autres, près de la Méditerranée, dans le nord et l'ouest, on va profiter quand même d'éclaircies pas trop vilaines, mais déjà, une nouvelle dégradation abordera la Normandie en fin de journée. Là encore, on fera attention à de potentielles chutes de neige dans l'intérieur des terres en soirée. Côté Mercure, fourchette de 1 à 14 degrés seulement au meilleur de la journée entre Belfort et Nice, comptez 7 degrés à Paris, à Toulouse et à Rouen.
RTL Soir, Vincent Parisot.
Une femme de 44 ans, mère de deux filles de 4 et 14 ans, a donc été tuée à coups de couteau hier soir au pied de son immeuble à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis par son compagnon. Un drame qui pose de nombreuses questions ce soir sur la vulnérabilité des victimes face à la détermination des agresseurs, mais aussi sur le suivi judiciaire de ces hommes. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
En effet, l'auteur de cette agression mortelle venait tout juste de sortir de prison après avoir été condamné à des violences sur cette femme.
Oui, la chronologie est terrible. À plusieurs reprises, la justice met en garde, punit, pioche dans sa boîte à outils d'urgence. Mais rien n'aura suffi à arrêter cet homme. Le meurtrier présumé part en prison une première fois cet été, fin juillet, 6 mois ferme pour menaces et violences sur sa compagne. La mère de famille n'est toujours pas rassurée. Elle obtient donc un téléphone grave danger. Et de fait, l'appareil va vite servir puisque 4 jours après sa sortie de prison, l'homme est en bas de chez elle. La victime appuie sur la touche qui permet permet de joindre la police en quelques secondes. Retour en prison pour le conjoint violent. Une partie de son sursis est révoquée. L'homme sort libre le 19 novembre, une semaine seulement avant le drame, quand il se jette sur sa femme avec un couteau dans la rue. Le téléphone, grave danger, est malheureusement resté au domicile de la victime. Leurs deux filles, 5 ans et 14 ans, n'ont pas assisté à la scène. Elles sont prises en charge en ce moment par des psychologues à l'hôpital.
Cindy Hubert. 3 millions de rendez-vous ont donc déjà été pris en France depuis les annonces d'Olivier Véran jeudi sur l'ouverture à tous les adultes de la troisième dose et de son intégration au pass sanitaire. Les inquiétudes liées à l'apparition d'un nouveau variant détecté, vous le savez, en Afrique du Sud, ont peut-être encore un peu plus boosté les prises de rendez-vous ces dernières heures. En tout cas, les centres de vaccination qui sont déjà ouverts fonctionnent bien. Reportage à Valence dans la Drôme, Raphaël Vantard.
Les rendez-vous s'enchaînent presque toutes les minutes dans ces couloirs de l'hôpital de Valence. Le rituel reste le même, questionnaire, enregistrement, vérification, puis injection. À un mois de Noël, Bruno vient d'être vacciné pour la troisième fois.
La troisième injection. Les enfants vont rentrer de différents horizons et voilà, éviter de se contaminer entre nous, quoi. C'est important pour moi.
Depuis les annonces du gouvernement cette semaine, Freddy Cerveau, directeur du centre hospitalier de Valence, voit chaque minute les rendez-vous vaccination pris d'assaut.
Ces dernières semaines, on était à peu près à 1500 vaccinations par semaine. Dès la semaine prochaine, il y a plus de 4000 créneaux qui sont ouverts. Ils sont déjà tous remplis. Pareil la semaine suivante, donc tout le monde pourra avoir son rendez-vous dans les délais impartis sans aucun problème.
À la sortie du centre de vaccination, la préfète de la Drôme, Élodie Di Giovanni, veut faire face, chiffre en main, au discours sceptique sur le vaccin.
Les 5 morts que nous avons à déplorer en une semaine étaient non vaccinés. L'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées en réa sont des personnes qui n'étaient pas vaccinées.
Est-ce la peur du nouveau variant ou l'arrivée des fêtes de fin d'année? Mais en plus des troisièmes doses, le centre de Valence voit arriver un nouveau public depuis ce matin, des primo-vaccinés, des personnes qui reçoivent leur première dose de vaccin anti-Covid.
Raphaël Vantard à Valence pour RTL. Cette cinquième vague est synonyme également du retour de certaines restrictions. À Paris, le port du masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur dans certains lieux. Le préfet de police a pris un arrêté hier soir pour réinstaurer donc ce masque obligatoire lors des rassemblements sur la voie publique, les marchés notamment, les brocantes aussi, ainsi que devant les lieux de culte et dans les files d'attente. Mesure qui n'est pas encore, évidemment, parce que c'est tout récent, bien intégrée par tous. Reportage au marché Saint-Honoré dans le premier arrondissement. Julie Brault.
Abaissé sous le menton, laissé dans la poche ou le sac, au milieu des étalages du marché Saint-Honoré, la moitié des clients ne portent pas le masque.
Je ne le porte pas, c'est pas bien, je sais.
J'ai le masque dans la poche, mais je ne l'ai pas sur le nez.
Déjà, j'avais oublié et ensuite, non, en plein air, je trouve que c'est pas la peine.
Le retour du masque dans les marchés en plein air, une restriction inutile selon eux, mais au stand des fruits et légumes, Michel interpelle la femme devant lui. Il lui demande de mettre son masque.
Les gens sont inconscients, ils mettent la vie des autres en jeu. Moi, j'ai 68 ans, je suis insuffisant respiratoire. J'ai pas envie de choper des postillons inconsciemment d'un voisin qui sait même pas qu'il est porteur. Quoi.
Derrière son rayon de volaillerie, Anthony, lui, admet que c'est une contrainte, mais une contrainte nécessaire.
Je crois que c'est une bonne mesure. Ça nous l'a prouvé en tout cas la première fois. On l'a porté pour endiguer les premières vagues. Donc je pense que le port du masque, même à l'extérieur, dans certaines situations, comme sur les marchés, dans les parcs ou des endroits avec une forte affluence, est tout à fait légitime.
À Paris, le masque est de retour en plein air dans les lieux fréquentés et dans ceux qui sont soumis au pass sanitaire.
Voilà, reportage sur un marché parisien de Julie Brault. Et au moment où la France donc relance la vaccination avec ses troisièmes doses, c'est un nouveau variant qui alerte les autorités sanitaires internationales. Omicron, virus très contagieux qui, en raison de ses mutations, pourrait être plus résistant au vaccin. Après un cas recensé en Belgique, un cas suspect a été identifié en Allemagne et aux Pays-Bas. 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs à leur arrivée à Amsterdam. Les autorités néerlandaises analysent actuellement leurs résultats pour savoir s'il s'agit du nouveau variant. Les 27 pays de l'Union ont suspendu en tout cas les vols en provenance d'Afrique australe, où ce nouveau variant a été identifié. Du coup, les touristes ou les professionnels qui sont actuellement en Afrique du Sud sont bloqués sur place. Écoutez cette femme, Patricia. Elle est bloquée à Johannesburg avec 300 autres passagers. Elle devait atterrir à Roissy ce matin, mais voilà, tous les vols arrivant à Paris après minuit ont été annulés. Et donc, au dernier moment, elle n'a pas pu embarquer.
Ce qui est un peu embêtant, c'est de ne pas savoir trop ce qui va se passer. Sachant que nous, l'avion, on est quasiment monté dessus, enfin dedans, enfin on n'est pas monté, mais nos bagages sont montés dans l'avion. On n'a vu personne, on a juste une annonce d'Air France qui nous a dit que la France bloquait les départs des avions et qu'on devait donc récupérer nos bagages. Et l'avion est rentré à vide en France, alors qu'il était là et qu'on aurait pu nous rapatrier et nous laisser à l'aéroport ou nous mettre dans un hôtel ou nous contrôler quelque part en France, au lieu de nous laisser là, ici, finalement, au risque qu'on attrape effectivement tous le Covid, parce qu'on va y rester forcément 4-5 jours de plus, alors que franchement, en Afrique, les protections sanitaires, elles sont vraiment là. Enfin, les gens sont masqués, on nous donne du produit systématiquement, on nous désinfecte les chaussures, on a la température qui est prise 4 à 5 fois par jour dès qu'on sort d'un hôtel, dès qu'on rentre quelque part. Franchement, on ne comprend même pas qu'on n'ait pas eu un rapatriement, qu'on n'ait pas rentré avec cet avion qui est rentré vide. C'est aberrant de laisser un avion rentrer vide.
Voilà, propos recueillis par Patrick Hisson. En Guadeloupe, comme en Martinique désormais, les tensions ne retombent pas malgré l'annonce du report de l'obligation vaccinale pour les soignants au 31 décembre prochain. Les forces de l'ordre ont en effet de nouveau été la cible de tirs à bas réel cette nuit dans la région de Pointe-à-Pitre. Il n'y a pas eu de blessés. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, lui, a créé la surprise en se disant prêt à discuter de davantage d'autonomie. À Pointe-à-Pitre pour RTL, Adeline Courson.
Et les forces de l'ordre intervenues pour de multiples départs de feu ont été pris dans un véritable guet-apens. Tirs à balles réelles, voitures enflammées projetées sur les gendarmes. Quatre d'entre eux ont été blessés sur un rond-point, notamment au visage, par des tirs de plomb. À Fort-de-France, le commissariat de police municipale a été fracturé. Des gilets pare-balles ont été volés. Jimmy Hélénis, secrétaire départemental unité SGP Police FO.
Très clairement, aujourd'hui, nous savons que certaines personnes cherchent à se protéger et nous craignons le pire maintenant. Nous attendons encore des renforts pour pouvoir mettre fin à cette situation. Hier encore, une jeune femme a subi des attouchements pour pouvoir passer. C'est inadmissible. Nous condamnons ces faits fermement et les tirs à balles réelles sur nos collègues.
À Fort-de-France, toujours, un bureau de poste a été attaqué à la pelleteuse avant d'être incendié, tout comme la station-service à côté. Des intrusions ont été constatées à la cité universitaire et dans un lycée. Une situation de chaos qui ont conduit à l'interpellation de 12 personnes. 5 sont en détention provisoire.
Donc pour ces violences contre les forces de l'ordre en Martinique ainsi qu'en Guadeloupe, après ce reportage d'Adeline Courson, et cela au moment où le ministre Sébastien Lecornu parle donc de davantage d'autonomie pour la Guadeloupe. Cette proposition d'ouvrir le débat fait en tout cas réagir en métropole, chez les Républicains et au Rassemblement National. Xavier Bertrand et Éric Ciotti parlent d'un recul, d'un lâchage. Marine Le Pen d'une tentative d'acheter les indépendantistes radicaux. Alors écoutez la réaction de l'ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Il est aujourd'hui sénateur de Guadeloupe et il estime que l'autonomie aujourd'hui, c'est pas du tout la priorité.
Le ministre, monsieur Lecornu, a répondu aux demandes des élus. C'est pas la demande de la population, c'est pas la demande des syndicats. Ça ne va pas régler immédiatement le problème de la crise sociale. Ça ne va pas régler ça. Ça ne va pas régler le problème de structure, les inégalités structurelles qui sont systémiques là-bas. Ça ne va pas les régler. Lorsque vous faites des propositions, que vous soyez membre de la majorité ou de l'opposition, vous n'êtes pas entendu, vous n'avez pas de pouvoir. Donc il y a une démocratie en panne. Donc il faut réfléchir à tout ça. Ça demande du moyen terme, ça demande du long terme. Ça fait des années, quelquefois, les pouvoirs, qu'il y a une forme d'indifférence. Certains ont parlé d'abandon. Et finalement, M. Lecornu aura à gérer tout cela.
Voilà, Victorin Lurel, l'ancien ministre des Outre-mer, qui est aujourd'hui sénateur de Guadeloupe. Il était avec Julie Brault. Et puis, c'est la réponse de l'Union européenne à la lettre du Premier ministre britannique Boris Johnson, publiée sur Twitter, demandant à la France cette semaine de reprendre les migrants arrivant en Grande-Bretagne. Le vice-président de la Commission estime que c'est à la Grande-Bretagne que revient la responsabilité de résoudre ces problèmes relatifs à l'afflux des migrants, parce qu'elle a quitté l'Union européenne. Margaret Ishina s'est ainsi déclaré aujourd'hui, et je le cite, « Si je me souviens bien, le principal slogan de la campagne du référendum sur le Brexit, c'était « Nous reprenons le contrôle ». Et bien donc, c'est aux Britanniques de trouver les mesures pour rendre opérationnel ce contrôle qu'ils ont repris. » Fin de citation, on marque une pause. Et dans un instant, Éric Zemmour quitte Marseille avec un doigt d'honneur.
RTL Soir. RTL Soir, Vincent Parizeau.
Ah, c'est une photo qui inonde déjà les réseaux sociaux et provoque des réactions. On y voit Éric Zemmour, toujours pas candidat officiellement, se livrer à un échange de doigts d'honneur avec une femme hostile à sa venue à Marseille où il a passé deux jours. Un cliché qui illustre à lui seul le climat dans lequel s'est déroulé ce déplacement d'Éric Zemmour dans la cité phocéenne, Marie Mollet.
Oui, 12h30, Éric Zemmour sort d'un restaurant marseillais et monte à l'arrière d'une voiture. Une passante lui fait signe, il baisse sa vitre. Alors elle lui fait un doigt d'honneur, il y répond, majeur dressé. À haute voix, il ajoute, et bien profond, je cite, hein, ce sont les mots d'Éric Zemmour. La scène, l'image, va rester et elle fait désordre. Il a pété un câble, hein, reconnaît l'un de ses soutiens. Il s'est fait insulter pendant deux jours, alors il a craqué, c'est humain. Il est vrai, ce geste vient parachever un déplacement raté. Il voulait voir Marseille façon carte postale. À la place, il a reçu des sifflets et des huées par des militants antifascistes. Une visite de terrain écourtée, un marché annulé. Il n'aura vu ni habitants, ni commerçants. Le cliché du doigt d'honneur offre l'image d'un presque candidat qui a perdu son sang-froid. Alors que le camp Zemmour attend la déclaration officielle la semaine prochaine comme une apothéose. Depuis Paris, au QG du RN, on sirote ces turbulences. Zemmour est un candidat immature qui ressemble aujourd'hui à un enfant de 6 ans.
Marie Mollet qui a suivi ce déplacement d'Éric Zemmour à Marseille. L'avenir de l'archevêque de Paris va se décider au Vatican. Monseigneur Michel Aupetit, qui avait été nommé en décembre 2017, a remis, vous le savez sans doute, cette semaine au pape François sa démission. Décision qui est la conséquence de la parution d'un article du magazine Le Point qui met en cause sa gestion du diocèse, mais aussi révèle la relation intime que l'archevêque de Paris a eue avec une femme du diocèse. Alors le pape François peut accepter ou refuser cette démission. En attendant, eh bien, Monseigneur Aupetit reste au contact des croyants. D'ailleurs, il officie en ce moment même en l'église Saint-Sulpice à Paris et vous y êtes, Léonard Cassette. Hein.
Oui, la messe a commencé il y a un peu plus d'une heure pour des confirmations. Elle est en train de se terminer. Et ici, un dispositif de sécurité est posté à l'entrée de l'église et filtre seulement les familles conviées pour la célébration. Pas question d'approcher l'archevêque de Paris. Parmi les fidèles, ils sont nombreux, comme Philippe, à le défendre.
Il vit dans un monde où on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amitié spirituelle. Moi, je vis tout de suite, je vis au XVIIe siècle. Je joue de la viole de gambe, donc le monde d'aujourd'hui, je n'y comprends rien.
Pour Bernadette, paroissienne heureuse de la gestion du diocèse, la religion passe avant tout.
Les hommes sont les hommes et Dieu sera toujours là. C'est ce qu'il faut vraiment penser.
Sur le parvis, Éric Emmanuel, lui, attend de vrais changements de la part de l'Église.
Ça a au moins le mérite de mettre le débat sur le célibat des prêtres, qui à mon avis est complètement obsolète aujourd'hui. On est au 21e siècle. Si c'est passé ça, c'est qu'on est des êtres humains, un prêtre aussi, un évêque aussi.
Comme lui, de plus en plus de catholiques y sont favorables.
Léonard Cassette qui était en direct de l'église Saint-Sulpice à Paris. Les fans de Gainsbourg, Clo-Clo et de nombreuses autres vedettes de la chanson française pouvaient se rendre aujourd'hui chez Drouot à Paris pour une vente aux enchères d'objets leur ayant appartenu. Et alors dans cette vente, il y a un lot qui a particulièrement attiré l'attention. Une mèche de cheveux de Johnny, disparue il y a 4 ans. Elle a été adjugée pour un bon prix, Nerissa Emani.
Eh bien, après quelques minutes de suspense et d'enchères, cette mèche de Johnny est adjugée 4 900 euros, vendue par téléphone à un admirateur anonyme, car dans la salle, personne n'ose enchérir.
C'est trop cher pour ce que c'est, on ne peut pas rivaliser. Quoi.
Cette petite mèche brune, enfermée dans un coffret rouge, aurait été donnée par Johnny à une fan en 1971, mais ses connaisseurs doutent de son authenticité.
Qui nous prouve que c'est ses cheveux? C'est pas sa couleur de cheveux.
On a une mèche de cheveux, nous, à Johnny. Quand il est sorti chez le coiffeur, il a récupéré la mèche de cheveux. Nous, on sait que c'est à lui. Mais là, on n'est pas certain que c'est à lui. Il n'y a pas de certificat d'authenticité. N'importe qui peut vendre n'importe quoi. Donc.
Cet autre fan n'est venu que pour une chose, un morceau de guitare de Johnny. La mèche ne l'intéresse pas du tout.
C'est trop personnel, peut-être. Hein. Je préfère un objet à lui que d'avoir un morceau de lui. Enfin, c'est très personnel, non.
Et pourtant, ce n'est pas la première fois que les fans s'arrachent les cheveux de Johnny. L'an dernier, une mèche du chanteur a été vendue 6 000 euros aux enchères de Roux.
Voilà, souvenir capillaire de Johnny vendu aux enchères à Drouot cet après-midi. Allez, le foot, 15e journée de Ligue 1. Depuis 17h, Lille affronte Nantes au stade Pierre-Mauroy. On en était tout à l'heure à un but partout. C'est toujours le cas, Samuel Lionel.
Exactement, la 64e minute, toujours un partout entre les deux équipes. Les Nordistes qui avaient pris le meilleur départ avec un joli but de Yilmaz, son troisième de la saison. Yilmaz qui a trompé Lafond d'une frappe puissante en demi-volée à l'entrée de la surface de réparation. Mais les Nantais ont bien réagi. Ils ont égalisé à la 24e minute par Blas, qui s'est joué de la charnière centrale lilloise avant d'ajuster Garbić d'une jolie frappe du pied gauche. Les Canaries qui auraient même pu marquer un deuxième but 5 minutes plus tard, mais la frappe de Fabio a heurté le poteau. Les champions de France lillois toujours en difficulté sur leur terrain. 64e minute et toujours un partout.
Merci, à tout à l'heure Samuel Duhamel dans On refait le match ce soir à 21h. Nice-Metz au programme, ce sera à suivre dans RTL Foot. Et puis le top 14 de rugby, victoire de Biarritz sur le Stade Français 17-14. La Rochelle a battu Pau 36-8 et Montpellier a battu Castres 25-24. Dans un court instant, mon métier, ma passion, et ça va vous botter.
RTL Soir.